nous sommes le mardi 17 juin.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Thomas Chenel.
L'heure de votre premier journal. À la une, l'Iran avait annoncé hier soir des frappes sans interruption jusqu'à l'aube. Toute la nuit, les Israéliens ont dû faire le va-et-vient dans leurs abris. Des civils qui soutiennent ce qu'ils appellent une guerre de survie essentielle pour que leur pays ait un avenir. Reportage à suivre. Tuer l'ayatollah Khamenei mettra fin au conflit. Déclaration hier soir de Benjamin Netanyahou, qui continue de pilonner les installations militaires et nucléaires iraniennes. Parviendra-t-il à les détruire? Les explications européennes à venir. Dans un instant également, la stupeur à Marseille. Des tags antisémites ont été découverts ce week-end sur les murs de la permanence socialiste. La fédération annonce porter plainte. Et puis près de Toulouse, un match de foot d'enfants de 9 et 10 ans dégénère. Des parents sont venus aux mains. Déchaînement de violence inouïe. Un accompagnateur risque de perdre l'usage de ses jambes. Le journal de 5 heures avec Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bonjour Thomas, bonjour à tous. 23h41, aller dans l'abri, la peur au ventre. 23h50, en sortir. 2h35, explosion à Tel Aviv. Retourner à l'abri, fin d'alerte. 2h50, 3h34, nouvelle salve de tir. 4h12, fin d'alerte. Voilà la nuit qu'ont passé les civils israéliens. Au rythme des mises en garde de l'armée et des pluies de missiles iraniens, l'Iran avait promis de frapper sans interruption jusqu'à l'aube. 5 nuits que ça dure et malgré l'épuisement, malgré les 35 morts déjà recensés depuis vendredi, les Israéliens affichent un soutien sans faille à cette guerre et à leur armée. Théo Grévin.
Oui, depuis vendredi dernier, les Israéliens vivent au rythme des sirènes d'alerte, des mises à l'abri, souvent plusieurs fois par jour. Sarah habite un kibboutz dans le sud du pays.
Une fois, j'ai été dans un abri avec une famille, avec des jeunes enfants. Donc là, c'est terrible parce que t'as des petits bébés qui comprennent pas la situation. Ils pleurent, ils crient.
Un quotidien totalement bouleversé. Et pourtant, la franco-israélienne venue s'installer en Israël 4 mois après les attaques du 7 octobre estime que son pays n'avait pas d'autre solution.
Ça fait des années qu'on entend que l'Iran veut nous attaquer. C'était une intervention qui était nécessaire.
Un avis partagé presque unanimement par ses proches, explique-t-elle, et ce malgré les ripostes qui causent pertes humaines et dégâts matériels. Pour Daniel Cohen, guide touristique à Tel Aviv, c'est le prix à payer pour garantir la paix en Israël dans les prochaines décennies.
On est prêt à payer parce qu'on a compris, le nucléaire c'était pour Israël, donc on n'a pas le choix. Même si ça nous coûte 10 morts par jour, aujourd'hui, Israël, c'est sa guerre pour survivre dans la région à jamais.
Et lui en est convaincu, cette unité de la nation derrière l'armée permettra un succès rapide de l'opération militaire.
Théo Grévin.
L'armée israélienne dont les objectifs sont multiples, le premier, détruire l'arsenal nucléaire iranien.
Oui, en 4 jours, Israël a ciblé plus de 200 sites militaires et nucléaires en Iran, mais dans les faits, si les dégâts sont effectivement considérables, rien n'est encore perdu pour Téhéran, Wilfried de Villers.
Pour Israël, 3 cibles prioritaires. Ispahan attend de ses forts d'eau les principaux sites nucléaires du pays. L'armée israélienne affirme avoir détruit une usine d'uranium à Ispahan. Et c'est la base de Natanz qui a subi le plus de dégâts, détaille David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS.
Il y a eu des dégâts importants, notamment en surface à Natanz. Tout ce qui était le système électrique qui permettait d'alimenter les 14 000 centrifugeuses en sous-sol. Et puis en surface, vous aviez 4 bâtiments, en fait, dont une usine de conversion d'uranium. Tout ça, ça a été rasé.
Ces frappes, elles ont donc principalement détruit en surface. C'est important de le préciser parce que c'est sous terre protégée par les montagnes que se situent les installations les plus stratégiques, les sites d'enrichissement d'uranium, des cibles pour l'instant difficilement atteignables pour Israël avec son arsenal actuel. Pour cela, l'État hébreu compte sur la GBU-57, David Rigoulet-Rose.
Une bombe à forte pénétration qui peut descendre théoriquement autour de 60 mètres, mais il se trouve que les Israéliens n'en disposent pas.
Israël a donc besoin des États-Unis pour cette bombe dont eux seuls disposent, mais le site stratégique de Fort Bordeaux reste un immense défi alors qu'il est enfoui à plusieurs centaines de mètres de profondeur.
Wilfried de Villers, cette nuit, plusieurs images satellites montrent des navires en feu à proximité du détroit d'Ormuz, passage stratégique des pétroliers du monde entier. La société britannique de sécurité maritime Embraer déclare ce matin qu'un incident est survenu à 22 000 nautiques. On n'en sait pas plus pour le moment.
L'autre cible d'Israël, c'est le régime iranien lui-même. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a estimé que tuer l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien, mettrait fin au conflit.
Et en conférence de presse au G7 au Canada, Emmanuel Macron, qui appelle à cesser les frappes contre les civils, estime que cette stratégie serait une erreur. Tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même et contre lui-même, se sont toujours trompés, a déclaré le chef de l'État.
Le G7 que Donald Trump a quitté précipitamment cette nuit.
Oui, à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, selon la porte-parole de la Maison-Blanche. Le président américain a quitté le Canada 1 jour plus tôt que prévu, demandant à ce que son Conseil de sécurité nationale se tienne prêt dès son retour jour dans la salle de crise de Washington.
Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est 5h05.
Dans ce contexte de guerre, les menaces antisémites se multiplient.
Dernière en date, à Marseille, la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône a découvert dimanche matin, sur la façade de sa permanence, des tags antisémites, traîtres, sionistes, des mots qui scandalisent les élus locaux qui annoncent porter plainte. Reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat.
PS, traître à vie, partitionniste, tagué à la bombe de peinture noire sur les rideaux métalliques et la façade du bâtiment situé dans une rue isolée de l'hypercentre. Un acte lâche pour la sénatrice Marie-Arlette Carlotti.
On a été extrêmement choqués. On a vu la Fédé avec des tags injurieux, des tags à caractère antisémite. Se faire traiter de sioniste, c'est vraiment très désagréable. On ne laissera pas faire. C'est le résultat d'une hystérisation du débat politique. C'est pas grave, on va nettoyer tout ça. Mais au fond de nous, je ne sais pas si on nettoiera l'affront qu'on nous a fait.
Et la parlementaire socialiste qui relie cet acte de vandalisme aux attaques récurrentes ciblant le député Jérôme Guedje.
Il est attaqué systématiquement dès qu'il se déplace. Il est traité à la fois d'antisémite, c'est le monde à l'envers. Il est également traité de fasciste, il est traité de sioniste, enfin, y compris des agressions physiques. Et je trouve qu'il faut que le Parti socialiste soit extrêmement solidaire.
Et en attendant que les tags soient effacés, une plainte a déjà été déposée. Une caméra de vidéosurveillance toute proche pourrait être d'une grande utilité pour les enquêteurs. Marseille, Stéphane Burgat.
La violence jusque sur les terrains de foot.
Oui, le monde du foot amateur a été à nouveau frappé par une affaire de violence très importante ce week-end. Un tournoi qui opposait des enfants âgés de 9 à 10 ans n'a pas pu aller à son terme. Une bagarre entre parents aurait éclaté. Reportage de notre correspondant en Occitanie, Alexis Bourdon.
Au bord d'un terrain de football en périphérie de Toulouse, les événements du week-end sont encore sur toutes les lèvres. À l'issue d'un match entre le club de Tournefeuille et une équipe de Frontignan, des parents ont fait irruption sur la pelouse. Deux adultes ont été blessés dans la bagarre, parmi eux un éducateur de Tournefeuille.
La première personne se présente à moi en tentant de me mettre un coup de tête. De là, une personne derrière moi est venue me faire une clé d'étranglement. J'ai perdu l'équilibre, on m'a jeté au sol. Et une fois au sol, ces personnes, elles ont essayé de me lyncher, tout simplement.
L'autre victime, un accompagnateur du club héraultais, a été plus lourdement touché. Il a subi deux opérations ce week-end et les médecins ignorent s'il pourra remarcher. David était présent au stade, c'est lui qui a appelé les secours. Pour ce bénévole, les parents donnent le mauvais exemple aux enfants.
Est-ce qu'il ne faut pas faire des arrêtés municipaux pour interdire l'accès aux parents? C'est du foot animation. On est là pour que les gamins s'amusent. Il y avait des enfants, de parents qui sont battus, qui pleuraient samedi soir de voir leurs parents se battre.
Dans un communiqué, le club de Frontignan a condamné cette violence tout en précisant que l'équipe qui s'était présentée au tournoi n'appartenait en aucun cas à leur association sportive. Tournefeuille, Alexis Bourdon, Europe 1.
Un mot de l'actualité politique et les députés qui ont voté hier soir en commission pour interdire les mariages avec un étranger en situation irrégulière. Proposition de loi sénatoriale mise à l'agenda par le groupe ciotiste et fustigée par la gauche. Et puis le conclave des partenaires sociaux sur les retraites doit s'achever aujourd'hui par une dernière réunion entre âge de départ qui ne bougerait pas et contrepartie sur la pénibilité. Point final, vraiment, on verra bien. Le Premier ministre s'est dit hier prêt à accorder quelques jours de plus, au-delà de la date butoir d'aujourd'hui, aux 5 participants encore présents.
Merci Fanny Marceau. Je vous signale ce rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. Rachida Dati, la ministre de la Culture, sera l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews à 8h10. C'était votre journal, le journal de 5h. Et puis vous savez, Pascal Pro est là tous les jours avec nous sur Europe 1. Deux rendez-vous, l'heure des pros de 9h à 9h30 en codiffusion avec CNews. Et puis de 11h à 13h pour vous donner la parole. Puisqu'il le dit lui-même, Pascal Pro, le plus important, c'est vous.
Et pour participer, c'est très simple. Vous appelez le 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Un numéro non surtaxé. Europe 1 vous rappellera.
Nous sommes le mardi 17 juin. Très bon réveil à tous.
Il est quasiment 5h10. Vous écoutez Europe 1 Bonjour avec vous, Thomas Schnell. Et dans un instant, c'est comme tous les jours, la revue de presse internationale.
Nous irons à Madrid, où des manifestants se sont vus sanctionnés lourdement par des amendes, le blanchiment d'argent épinglé par l'Union européenne, le blanchiment d'argent en Algérie et puis les épreuves du bac en Égypte. Voilà tous les titres à la une des quotidiens internationaux avec nos correspondants. Mais tout d'abord, les courses sur Europe 1 avec votre pari gagnant. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thomas, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Nantes et mon pari gagnant sera le 703 Griotine. Bien née, cette jument estimée n'a pas raté ses débuts en haie le 25 mai sur l'hippodrome de Niort, où elle s'est imposée sans aucune émotion. Et comme elle dépend de l'entraînement entraînement en très grande forme de Donatien Sourdeau de Beauregard, qui ne laisse jamais rien au hasard, nul doute qu'elle devrait doubler la mise et conserver ainsi son invincibilité. Notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Nantes, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 3, Griotine.
Le pari gagnant de Thierry Léger. Merci Thierry, on vous retrouve après le journal de 5h30 pour vos pronostics complets du Quintet. Dans un instant, eh bien, ce sera votre revue de presse et puis l'histoire dingue, Marion.
Oui, est-ce que vous aimez visiter les musées, Thomas ?
Évidemment.
Bon, j'imagine que vous n'avez jamais détruit une œuvre par mégarde.
J'évite en général.
Non, voilà, et bien mes deux protagonistes du jour-ci. Et vous allez voir, la vidéo fait le tour du web.
5h-7h, Europe 1 bonjour.
5h10 sur Europe 1, Thomas Schnell.
La revue de presse internationale à présent, nous sommes tout d'abord en Argentine avec... en Espagne avec Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
De quoi parlent les quotidiens espagnols ?
De ce projet de loi régionale à Madrid qui vise les universités publiques. Il prévoit notamment des amendes records contre les mobilisations étudiantes. Une version du projet a fuité dans la presse. El País en donne le détail. Jusqu'à 15 000 euros d'amende pour brandir une pancarte sans autorisation. Jusqu'à 100 000 euros pour la tenue d'une manifestation interdite sur le campus. Un régime de sanctions unique par sa sévérité, estime le quotidien. El Salto rappelle que ce projet de loi intervient alors que les rassemblements pour la Palestine se sont multipliés ces derniers mois dans les universités madrilènes. Dans El Periodico, les adversaires du gouvernement de droite madrilène parlent de dérives trumpistes. Les syndicats d'enseignants, eux, dénoncent une manœuvre d'intimidation.
Nous partons maintenant en Algérie retrouver Nour Chahine. Qu'est-ce qui fait la une des journaux, Nour ?
De la décision de l'Union européenne de mettre l'Algérie sur une liste noire. Il s'agit d'une liste incluant des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. D'où cette question du site TSA qui met en titre « Posture technocratique ou volonté de pression ?» Le Soir d'Algérie revient sur l'argument avancé par l'Union européenne autour de cette décision. L'UE évoque le non-respect des normes internationales établies par le groupe d'action financière, le GAFI. Il s'agit de lacunes stratégiques dans son dispositif de lutte contre les crimes liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, précise l'expression. Le quotidien qui s'étend de cette décision en expliquant que l'Algérie a toujours été en première ligne dans la lutte contre le terrorisme avec un coût humain immense, argument repris par la majorité des médias algériens.
Et puis, dernière étape ce matin en Chine, Noua Abdelbasset, tous les médias ne parlent que d'un événement, lequel ?
Du bac, bien sûr. Depuis dimanche, plus de 800 000 lycéens affrontent l'examen national, la fameuse Sanawiyam, un marathon de 11 jours jusqu'au 10 juillet. El Gomorrea parle d'un moment de tension extrême dans un système ultra compétitif où seuls les meilleurs ont accès aux universités publiques. Les autres, eux, devront opter pour des solutions plus coûteuses, voire aucune. Pour le Shakl Awsat, c'est chaque année le même scénario. Les sujets fuient en ligne dès les premières minutes. La triche est généralisée, parfois même organisée. Face à ce chaos, le ministre de l'Éducation promet une refonte totale, écrit le Ahram, un nouveau bac basé sur l'évaluation continue, 4 spécialisations et 2 sessions d'examen par an. Une révolution annoncée pour l'an prochain.
Merci à tous nos correspondants Europe 1.
C'était votre revue de presse internationale. Il est 5h13 sur Europe 1 et à suivre, ce sont les initiatives en France avec vous, Thomas Schnell.
S'inviter au mariage d'inconnus ou accepter que des étrangers viennent au vôtre, c'est possible et ça se fait de plus en plus grâce à l'application Invitein. Sa fondatrice est avec nous dans un instant.
Europe 1.
Mais tout d'abord, votre histoire dingue, Marion. Ce matin, il est question d'une nouvelle œuvre d'art cassée par mégarde dans un musée.
Effectivement, alors ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Nos auditeurs les plus fidèles se souviennent peut-être de mes histoires dingues sur le sujet. Il y en a eu plusieurs, comme celle d'un technicien qui avait jeté une œuvre à la poubelle, pensant bien faire, hein, parce qu'elle avait l'air d'une vieille canette vide. Ou encore celle d'un enfant qui avait cassé un vase vieux de 3000 ans dans un musée. Eh bien cette fois, on passe encore un niveau au-dessus dans la bêtise, Thomas, puisqu'il ne s'agit pas d'un enfant, ni d'un adulte qui pensait faire une bonne action, mais de deux adultes qui ont détruit une œuvre en voulant s'amuser avec.
Alors ça s'est passé au Palazzo Maffei.
Oui, c'est un musée de Vérone en Italie. Les faits se sont déroulés au mois d'avril, mais le musée vient tout juste de poster la vidéo de l'accident sur les réseaux sociaux. La légende est marrante, hein, ils ont mis c'est le cauchemar de tout musée et cette vidéo, elle tourne, vous imaginez bien, elle a fait le buzz sur les réseaux. Alors on y voit quoi ? Eh bien on y voit un couple de touristes, ils ont l'air d'avoir autour d'une cinquantaine d'années et ils s'amusent à se prendre en photo en se mettant en scène devant une chaise très spéciale. Bon, vous me direz, il n'y a pas d'âge pour s'amuser, mais il y a quand même des endroits et surtout des manières.
Oui, parce que la chaise en question, c'est une œuvre de l'artiste italien Nicola Bolla.
Oui, c'est une chaise entièrement recouverte de cristaux de verre poli Swarovski qui a été nommée Van Gogh, hein, en référence au tableau du peintre représentant une chaise toute simple. Bon là, ce n'était pas une chaise toute simple, justement. Elle valait une petite fortune, on ne sait pas combien exactement, mais on peut l'imaginer. Elle était placée sur un piédestal pour bien montrer qu'il s'agissait d'une œuvre. Et au cas où, si ce n'était pas encore assez clair, il y avait aussi un panneau « Ne pas toucher dessus ».
Et donc, comme on peut s'en douter, le couple n'a pas respecté le panneau.
Et non, ils se sont pris l'un et l'autre en photo devant la chaise en faisant semblant de s'asseoir dessus. Alors, la femme, elle, a réussi à faire semblant, mais l'homme, lui, a eu plus de mal. Il a visiblement perdu l'équilibre en se penchant en arrière et s'est littéralement effondré sur la chaise qui s'est elle-même cassée sous son poids.
Oups, la boulette !
Ah oui, la boulette, deux pieds de la chaise et l'assise ont été détruites.
Oui, donc parce que le cadre était en partie creux, il était maintenu avec du papier d'aluminium.
Oui, alors heureusement, je vous rassure, l'œuvre a pu être restaurée depuis et remise en exposition. Par contre, les deux visiteurs sont aussitôt partis sur la pointe des pieds et ils sont toujours recherchés aujourd'hui. Donc si vous allez en Italie et que vous apercevez un homme qui n'ose plus s'asseoir nulle part, peut-être contactez le musée, on ne sait jamais. Je vais vous la poster, évidemment, cette vidéo sur la page Facebook Europe 1 Bonjour. Franchement, elle a sa place dans tous les bêtisiers de fin d'année. Je sais, c'est horrible pour le musée et pour l'artiste, mais elle est très, très drôle.
Ouais, parce que c'est pas une bêtise non plus. Il savait très bien ce qu'il faisait.
Bah, il a trébuché, mais bon, vraiment, faut faire attention avec ce genre d'œuvre d'art. Franchement, c'est drôle. Allez voir.
On regarde avec les yeux au musée. On ne touche pas. Voilà. Merci, Marion. Votre histoire dingue. Vous êtes bien sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h. Thomas Chenel.
Toute l'actualité à 5h16, le journal permanent Fanny Marceau.
L'Iran avait annoncé hier soir des frappes sans interruption jusqu'à l'aube. Encore une nuit sans sommeil, la peur au ventre pour les civils israéliens à faire des allers-retours dans les abris. La Chine appelle ses ressortissants à quitter Tel Aviv. Terreur aussi à Téhéran où de nombreux habitants tentent de fuir. Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement, a écrit Donald Trump sur son réseau social hier. Le président américain qui assure qu'un accord serait sur la table. Il a précipitamment quitté le G7 cette nuit, demandant à ce que son Conseil de sécurité nationale se tienne prêt dès son retour dans la salle de crise de Washington. Cette nuit, plusieurs images satellites, notamment de la NASA, montrent des navires en feu à proximité du détroit d'Ormuz, passage stratégique des pétroliers. La société britannique de sécurité maritime Embraer déclare ce matin qu'un incident est survenu à 22 000 nautiques, sans en dire plus pour l'instant. En France, les députés ont voté hier en commission pour l'interdiction des mariages avec un étranger en situation irrégulière. Proposition de loi sénatoriale mise à l'agenda par le groupe d'Éric Ciotti et fustigée par la gauche. Le conclave sur les retraites doit s'achever aujourd'hui, mais François Bayrou s'est dit ouvert à quelques jours de négociations supplémentaires. Le Premier ministre qui a par ailleurs formulé une nouvelle proposition hier, une prime pour les salariés seniors, une partie de sa retraite en plus de son salaire pourrait être versée aux salariés qui auraient atteint ses droits à la retraite et décideraient de rester au travail. Et puis en sport, Maxime Grousset a signé le troisième meilleur chrono de sa carrière sur 100 mètres nage libre pour remporter l'épreuve Rennes au championnat de France de natation à Montpellier. Nouveau coup d'éclat après son record de France sur 50 mètres papillon samedi.
Europe 1.
Merci Fanny. Juste avant le journal de 5h30, nous allons écouter Lola Young.
Et le titre Messi qui a enflammé TikTok. Il cumule plus de 1,5 milliard d'écoutes dans le monde.
Les initiatives sur Europe 1 ce matin avec Katia Lekarski. Bonjour.
Bonjour Thomas, comment vous allez ?
Très bien, merci, ravi d'être avec vous ce matin. Katia Lekarski, fondatrice de Invite-In. Si je vous disais qu'il est possible aujourd'hui de s'inviter à des mariages d'inconnus, oui c'est possible et c'est même tout à fait légal et même payant, c'est en tout cas ce que vous proposez aujourd'hui, de participer au mariage d'inconnus. Katia Lekarski, j'ai envie de vous demander d'abord quel intérêt trouvent les mariés à inviter, à faire payer des inconnus qui participeraient à leur mariage.
Ah oui, l'intérêt, il y en a quelques-uns d'abord. Donc, écoutez, aujourd'hui, le mariage, c'est vraiment une cérémonie qui est assez privée. Donc, c'est que la famille proche, les amis proches, etc. Et donc, l'intérêt pour eux, ce serait en fait d'ouvrir leur mariage et de faire participer des gens qui rêvent de venir à des mariages. Donc en fait, d'être dans l'inclusion, dans le partage et voilà, dans l'ouverture de leur mariage, donc vraiment pour faire partager à ces gens ces moments magiques.
Mais tout de même, le mariage, justement, vous le dites, c'est quelque chose d'intime, c'est un moment privilégié que l'on partage avec, parmi les plus proches de nos amis, parfois peut-être même pas tout le monde, là, inviter des inconnus en les faisant payer. En les faisant payer, c'est surprenant, ils ont d'autres intérêts ?
Oui, ils ont d'autres intérêts. Alors déjà, en sachant qu'on garde quand même cette notion d'invité qu'on a à la base, tous nos amis et la famille restent bien là. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir quelques places. Donc vraiment, voilà, c'est une infime partie des invités. Et évidemment, l'idée, c'est aussi un petit côté, évidemment, financier. Donc on se retrouve dans une balance. Et dans ce cas-là, pourquoi pas ouvrir, être propice à des rencontres, faire venir les gens, leur donner cette opportunité et gagner un petit peu d'argent, pourquoi pas.
Puisqu'on parle de quelle somme pour pouvoir participer à ce mariage-là, si je souhaite aujourd'hui, moi, être sur Invitine et m'inviter à un mariage d'inconnu, combien est-ce que je devrais payer ?
En fait, tout dépend du lieu, du thème, de l'endroit où vous trouvez, de ce que vous auriez dépensé pour votre traiteur et votre lieu. Donc, on trouve une somme, un prix qui est juste pour tout le monde et on s'y retrouve. On propose donc une fourchette, mais aujourd'hui, je dirais que le prix varie entre 100 euros jusqu'à 400, 500, voire dépendant du thème et du lieu, si c'est vraiment un endroit très prestigieux, etc. Donc, les mariages, basiques, on sont à partir de 100, 150 euros.
Et donc, avec ça, on participe au repas, on participe à la soirée. J'ai envie de vous demander, Katia Lekarski, le pendant, si je souhaite m'inviter à un mariage d'inconnu, qu'est-ce que moi, j'y gagnerai, qu'est-ce que j'y trouverai, quel est l'intérêt des personnes qui font appel à Invitine?
Oui, ça aussi, il y a plusieurs cas de figure. Donc, en fait, ce sont des gens un petit peu qui ont besoin de rencontrer du monde, qui ont envie justement de ce lien social. Et l'avantage avec Invitine, c'est qu'on n'est pas sur une heure de date ou deux heures ou trois heures de dîner. En fait, là, on est vraiment sur un temps qui est assez long, en fait. À partir du moment où on arrive, on a la cérémonie, on a le vin d'honneur, on a le dîner, on a la fête dansante. Donc tout ça, c'est un moment assez long sur lequel on peut vraiment créer des liens, en fait. Et l'intérêt, c'est aussi pour les gens, de créer des liens, d'être dans cet échange, dans ce partage. Et puis il y a aussi des couples qui, pour eux, peuvent tester un lieu et des prestataires en amont de leur mariage. Donc ils se disent, moi j'aimerais bien tester ce lieu, ce château, ou bien cette mairie ou autre. Enfin, pas la mairie, mais la fête, l'endroit où on fête, l'endroit. Donc en fait, c'est un endroit où on peut tester vraiment des lieux pour les couples. Et puis il y a des gens aussi qui ont un certain âge et qui ont moins d'amis, moins de famille. Et dans ce cas-là, ils se disent, nous, ça nous ferait plaisir de partager ces moments émotionnels, en fait.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un tabou qui recule en France ou au contraire qui existe encore ? Je veux dire, est-ce que le concept d'invitine existe à l'étranger ? Est-ce que ça se fait davantage dans d'autres pays de participer à des mariages d'inconnus qu'en France ?
En fait, c'est unique, c'est innovant et on est les seuls sur le continent. Et je dirais même un peu plus loin. En fait, ça n'existe qu'en Inde. Donc en Inde, il y a ce concept, on peut participer à des mariages parce que l'Inde, ils adorent avoir des gens autour d'eux. Ça dure trois jours et c'est vraiment très festif avec beaucoup de couleurs et beaucoup de fêtes, etc. Donc c'est vraiment, c'est unique. Mais en France et en Europe, ça n'existe pas. Donc en fait, on voit comment les gens réagissent. Et aujourd'hui, je dois dire qu'on est vraiment bien parti. Donc pourquoi pas ? Oui, peut-être qu'on change la donne, effectivement.
Et comment on choisit ? Est-ce qu'on... Je ne sais pas, c'est sur un catalogue en fait, on va choisir un mariage en fonction d'une thématique, d'un lieu, comment on effectue son choix ?
Aujourd'hui sur la plateforme, on est à 6 mariages donc, qui sont là, il n'y a pas trop, on a des régions donc on choisirait par région, et puis par thème, en étudiant aussi un petit peu le profil des couples, ils se mettent en avant d'une façon assez naturelle, en leur présentant qui ils sont, ce qu'ils aiment, comment ils se sont rencontrés. Donc ils se mettent un petit peu en avant leur lieu aussi où va se passer le mariage. Et puis par rapport au lieu et à ce couple, on peut faire un choix effectivement.
Merci beaucoup Katia Lekarski d'être venue sur Europe 1. Merci beaucoup fondatrice de Invitine. Voilà pour rencontrer les mariés le jour de leur mariage. La start-up que vous avez fondée. Merci et à bientôt.
À bientôt, au revoir, merci.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h.
Thomas Chenel.
À 5h24 sur Europe 1, ravi de passer cette matinée avec vous, cette fin de nuit pour certains. Dans quelques minutes, votre journal de 5h30. Mais tout d'abord, on se réveille en musique, Marion.
Et oui, on écoute Messi, le tube viral de la chanteuse britannique Lola Young sur Europe 1. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. Sur Europe 1, et pour applaudir la nouvelle icône de la pop britannique sur scène, eh bien, il faudra attendre le festival Lollapalooza, c'est bientôt, le 18 juillet.
Bienvenue à tous si vous nous rejoignez en ce mardi 17 juin. Dans la prochaine demi-heure, votre club culture Europe 1, Nicolas Carreau, nous rejoindra pour la recommandation littéraire.
Oui, Nicolas qui continue de vous proposer des romans parfaits pour cet été. Il a choisi un Stephen King ce matin, forcément.
Et puis le club culture le mardi, c'est les jeux vidéo.
Oui, avec Caroline Speller qui a choisi, elle, le jeu Cyberpunk 2077. C'est un des titres de la Switch 2.
L'invité d'Europe 1, bonjour. À 6h20, quelle position doit adopter la France vis-à-vis d'Israël ? Dans sa guerre contre l'Iran, le député Horizon du Calvados nous donnera ses arguments. Jérémy Patrier-Lettus, qui porte un combat politique à l'Assemblée nationale pour l'interdiction des téléphones chez les plus jeunes. Il nous expliquera comment il compte s'y prendre. Mais tout d'abord, à 5h28, Marion, jetons un œil au temps. C'est reparti pour un tour. Il va faire beau aujourd'hui.
Oui, très belle journée en perspective. Le temps sera largement ensoleillé sur l'ensemble du territoire. On a quand même quelques bancs de brume et de brouillard ce matin sur les côtes de la Manche, du nord de la Bretagne à la Normandie. Peut-être quelques nuages au nord de la Loire cet après-midi, mais ça ne gâchera en rien ce ressenti estival. Il va faire très beau. La seule petite exception, c'est vers le Mercantour, où des ondées sont possibles du côté des Alpes du Sud. Les températures, bien écoutez, on a une nouvelle poussée d'air chaud et ce n'est que le début. Ça va augmenter au fil des jours cette semaine. Alors ce matin, on a toujours et seulement 9 degrés à Aurillac. Hein, ça va, ça reste un petit peu frais. De ce côté-là, 10 à Cahors, 10 à Charleville-Mézières également, 13 à Angoulême, 14 à Orléans, 16 à Biarritz, mais déjà 18 à Paris. 22 à Nice et à Marseille. Et cet après-midi, attention, vous aurez 34 degrés à Nîmes et à Perpignan. 34 hein, déjà. 32 à Manosque, Gap, Brive-la-Gaillarde. 32 à Avignon et à Bordeaux. 31 à Pau, Paris, Albi et Montpellier. 30 à Laval et au Mans. 29 degrés à Lille, Marseille et Quimper. 27 à Belfort, 25 à Caen et seulement 22 du côté de Cherbourg.
On ne sort pas sans le chapeau, le bob ou la casquette aujourd'hui. Très bon réveil à tous, 5h29 sur Europe 1.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h. Thomas Schnell.
L'heure d'un nouveau journal à la une de l'actualité. Tuer l'ayatollah Khamenei mettra fin au conflit. Les mots du Premier ministre Benjamin Netanyahou sont aussi un aveu. Israël veut éliminer le guide suprême iranien et en finir avec le régime des Mollahs. Vouloir changer un régime par la force serait une erreur stratégique, avertit Emmanuel Macron depuis le G7 au Canada. Le président américain Donald Trump rentre aux États-Unis précipitamment. Face à un risque d'escalade dans la région, Washington renforce sa présence militaire et appelle ses ressortissants à quitter immédiatement Téhéran. La Chine presse les siens de quitter Israël sans tarder. Et puis dans le reste de l'actualité, une exclusivité Europe 1. Femme de ménage, nounou, cours à domicile, la moitié des prestations ne seraient pas déclarées. Une niche fiscale que le gouvernement souhaite raboter. Le journal de 5h30, Christophe Lamar, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Israël ne cache plus son intention, abattre le guide suprême iranien, faire tomber le régime des Mollahs. Voilà l'objectif, c'est ce qu'a déclaré à la chaîne américaine ABC le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui compare l'ayatollah Ali Khamenei à un Hitler moderne. Le tuer mettra fin au conflit, dit-il. Le chef du gouvernement qui compte également sur la rue iranienne. Message entendu jusqu'à Paris, Alexis de la Fléchère.
Oui, depuis vendredi, plusieurs hauts gradés et hauts responsables iraniens ont été tués dans les frappes israéliennes. Le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, est tombé notamment. Et selon Sarah, iranienne expatriée en France, c'est une avancée notable.
Tous ces gens-là sont des traîtres au peuple iranien. Ça fait 45 ans qu'ils pendent, qu'ils tuent, qu'ils violent, qu'ils massacrent les Iraniens. Là, il faut savoir quand même qu'en 4 jours d'attaque, on a eu moins de blessés et moins de morts que pendant les premiers jours de la révolution iranienne en 2022, en fait.
Soulevée pour regagner la liberté, Nouchan a elle aussi quitté l'Iran il y a une dizaine d'années. Et derrière les bombes israéliennes, elle voit également l'opportunité d'un avenir meilleur.
Ils n'ont jamais été aussi affaiblis que maintenant. Là, il faut faire quelque chose. Bon, là, c'est vraiment le moment. Pour moi, ce n'est pas le peuple iranien qui est visé, c'est vraiment le régime terroriste islamique d'Iran qui est attaqué. Et enfin, quelqu'un a osé faire quelque chose pour nous sauver.
Un moment crucial se joue donc, m'ont expliqué ces deux iraniennes qui, malgré tout, vivent aussi évidemment dans la peur de voir leurs proches perdre la vie dans cette guerre.
Alexis de la Fléchère, réponse à distance du régime iranien. Nous bombarderons Israël jusqu'à l'aube. Nuit plutôt calme selon les correspondants d'Europe 1 en Israël. L'État hébreu qui accuse son ennemi de vouloir viser délibérément les civils. Le dôme de fer, système de défense antimissile, n'est d'ailleurs pas complètement imperméable, William Molinier.
Sur les 65 missiles tirés en deux salves dans la nuit de lundi à mardi sur Israël, une demi-douzaine seulement a transpercé les couches de défense antiaérienne. L'efficacité d'interception est estimée autour de 90% selon plusieurs sources sécuritaires. Au compteur de Tel Aviv, il faut ajouter les douzaines de drones iraniens interceptés en vol par les avions de chasse israéliens. Pour l'instant, Téhéran mise sur la saturation du système de défense. En clair, propulser beaucoup de missiles au même moment pour multiplier les chances de franchissement. Mais les tirs sont détectés en avance par Israël qui a une vingtaine de minutes pour se préparer, éventuellement pour déplacer, orienter et recharger les batteries solaires. Chaque lanceur est équipé de 20 missiles d'interception avec une portée maximale de 70 km. Voilà pour le dôme de fer, la première couche. La seconde est surnommée Fronde de David. Ces missiles peuvent aller jusqu'à 300 km. Enfin, la dernière, la Flèche, a une portée de 2400 km. Ce système est essentiellement réservé aux missiles balistique intercepté en dehors de l'atmosphère.
William Molinier. Washington continue de croire un accord possible entre les deux parties. C'est ce qu'a expliqué Donald Trump sans donner davantage de détails. Le président américain qui a quitté ses partenaires du G7 juste après le dîner. Retour précipité à Washington pour suivre les événements au plus près.
Et c'est dans ce contexte et en plein salon du Bourget qu'une polémique oppose la France à Israël.
Les stands industriels israéliens recouverts de bâches noires. Colère du ministre de la Défense israélien qui dénonce une ségrégation. Le gouvernement français a fini par réagir et parle d'une décision prise en accord avec l'ambassade d'Israël. Maïlène Trémollet.
Selon François Bayrou, si Israël a le droit de se défendre face à l'Iran, la situation à Gaza impose à la France de marquer réprobation et distance et donc d'autoriser uniquement l'exposition d'armes défensives au Bourget.
La position du gouvernement français était très simple. Pas d'armement de guerre
offensif sur le salon. Étant donné la situation dans la région, on a provisoirement, j'espère, fermé les stands.
Le gouvernement français s'est immédiatement attiré les foudres de la droite, du RN aux Républicains. Marine Le Pen dénonce une volonté de nuire à un État allié de la France quand l'eurodéputée reconquête Sarah Knafo taxe l'Élysée d'hypocrisie.
La France vend de l'armement à Israël. On se comporte en réalité comme certains pays arabes qui commercent avec Israël mais qui en ont honte parce qu'ils ont honte des réactions de leur rue arabe.
Une indignation partagée dans les rangs de la majorité. Le vice-président du parti Horizon, Christian Estrosi, s'interroge ainsi. Quel message? Qui est l'ennemi? Le régime des ayatollahs ou Israël qui nous défend? Seule la France insoumise crie victoire sans manquer de réclamer une fois de plus l'arrêt total des partenariats militaires avec l'État hébreu.
Maïhélène Trémollet du service politique d'Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est 5h35.
Dans l'actualité également, le scandale des airbags Takata. Une mère de famille meurt dans un accident à Reims après l'explosion de son airbag.
Un traumatisme facial caractéristique des accidents liés à ces airbags défectueux. La victime a été retrouvée morte derrière le volant de sa voiture mercredi dernier. Il s'agit du 19e accident mortel de ce type en France. Plusieurs millions de véhicules et des dizaines de marques sont équipés de ces airbags de fabrication japonaise, obligeant les constructeurs à organiser une campagne de rappel sans précédent.
C'est une exclusivité Europe 1. En plein débat sur l'avenir des niches fiscales, voilà une étude qui va alimenter le débat autour du crédit d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile.
Et nounou, professeur particulier, femme de ménage ou jardinier, près d'une prestation sur deux n'est pas déclarée. Conclusion de l'enquête annuelle Stop au travail au noir qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité. Étonnant, alors que l'on peut bénéficier d'un crédit d'impôt pour ce type de prestation, 6 milliards de dépenses annuelles pour l'État tout de même. L'étude tombe pile au bon moment, Mathis de Morin.
Oui, les prestations à domicile sont un peu plus déclarées d'année en année, mais la progression reste lente. Pour Guillaume Richard, le PDG du groupe WeCare, le numéro 1 français des services à domicile, c'est avant tout un manque de connaissance des ménages.
Il reste un niveau de méconnaissance, il reste une insuffisance de communication. Et là, c'est à nous aussi, les professionnels, et puis au gouvernement, de communiquer de façon un peu plus importante sur, justement, ce crédit d'impôt qui permettrait définitivement de tuer le travail au noir en France.
Au besoin de pédagogie, il faut ajouter les effets néfastes des débats récurrents autour du crédit d'impôt emploi à domicile. Depuis quelques semaines, le gouvernement a de nouveau émis l'idée de réduire son champ d'action, mais les conséquences seraient immédiates, prévient Mathieu Plane, économiste directeur adjoint à l'OFCE.
Si jamais il n'existait pas le dispositif, on ne serait pas à une personne sur deux, mais peut-être à 80% des personnes. Si on réduit les aides, le risque est toujours de basculer vers une partie de travail non déclaré.
D'après l'enquête Stop au travail au noir, 84% des Français auraient tendance à recourir au travail non déclaré en cas de réduction ou de suppression du crédit d'impôt.
Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Une surprise, MaPrimeRénov' continuera de bénéficier aux travaux monogestes, entendez par là les travaux d'isolation des combles ou le changement de chaudière par exemple. Là, le guichet reste ouvert. En revanche, il restera fermé à triple tour pour les rénovations d'ampleur. Le football, la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, Chelsea bat Los Angeles FC 2-0, c'est un match comptant pour le groupe D.
Merci Christophe Lamar. Votre journal à 5h37 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez en ce mardi 17 juin. Très bon réveil à tous. Dans quelques instants, eh bien, nous aurons le Club Culture, tout d'abord. Mais d'abord, les enfants d'Europe 1, Marion.
Et oui, avec l'Or d'Autriche qui célèbre un anniversaire ce matin, celui d'un sportif de légende, le cycliste belge Eddy Merckx.
Et d'abord, à 5h38 sur Europe 1, les pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Thomas, direction l'hippodrome de Nantes pour ce quintet à handicap qui réunira un lot homogène de 16 pur sang âgés de 4 à 7 ans sur la distance de 1600 mètres. Et j'ai fait du numéro 14 Kerouelen mon favori en raison de son aptitude marquée au tracé nantais si particulier. 8 courses, 8 fois dans les 5 premiers, ce qui laisse augurer une nouvelle grande performance. On lui opposera les numéros 5, Souvenir des Cajoles, qui reste sur 2 bonnes 3e places dans des quintets d'un niveau peut-être plus relevé que celui de cet après-midi, le 29 avril à Bordeaux, puis le 29 mai à Longchamp. 6, Prince of Clouds, pour lequel son entourage a opté pour cet engagement. 2, Sous la Neige, dont la dernière tentative dans un quintet le 8 mai à Lyon-Paris est certainement bien meilleure que l'indique son classement. Et 9, Light Wake Up, certes intermittent, mais qui possède des références solides sur cet hippodrome de Nantes, l'un des paramètres incontournables pour faire l'arrivée cet après-midi de ce quintet. Enfin, les numéros 7, Chirico, 12, Gauguin Space et 8, Nolito, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 14, 5, 6, 2, 9, 7, 12 et 8.
Merci Thierry.
Et vous retrouvez dès maintenant tous les pronostics de notre cher Thierry Légéen sur Europe1.fr et sur l'application Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Les enfants d'Europe 1.
Avec Laure d'Autriche, bonjour Laure.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui a lieu l'anniversaire d'un sportif de légende, le cycliste belge Eddy Merckx. En 1967, Eddy Merckx devient le champion du monde et il a survolé dans les années 60-70 en remportant presque à chaque fois toutes les grandes courses cyclistes.
Oui, un homme qui a enchaîné les victoires quelques années à peine après avoir commencé à faire du vélo sérieusement. Eddy Merckx a raconté sur Europe 1 comment il a commencé le cyclisme. C'était en 1961. Il avait 16 ans et n'en avait pas parlé à sa compagne.
Elle était partie se reposer à la mer après une opération. Enfin, dans ce moment-là, enfin, j'avais profité pour prendre une licence et commencer le cyclisme sans lui dire.
Trois ans plus tard, il gagne en solitaire son premier grand trophée, celui de champion du monde amateur. Et en 1969, lors du Tour de France, Eddy Merckx finit premier. Il est alors accueilli en héros à son retour en Belgique.
La direction des chemins de fer belges a fait savoir à Eddy Merckx que dimanche soir, dans l'Oiseau Bleu Paris-Bruxelles, un salon ultra confortable sera mis à sa disposition.
Pour le moment, c'est le plus fort. Qui en a eu avant lui de plus fort, mais que pour le moment, il bat tous les records.
Qu'est-ce que vous demandez encore? Et c'est un champion. Hein, il n'y a pas de meilleur que lui. Non, il n'y en a pas.
Et pourtant, certains pensent en cette année 69, où l'homme pose le pied sur la Lune, qu'on oubliera bien vite Eddy Merckx.
Je pense qu'ils auront oublié Eddy Merckx dans 20 ans, mais qu'ils n'oublieront pas le premier voyage sur la Lune.
Mais personne ne va l'oublier et son palmarès va s'étoffer. 5 Tours de France, 5 Tours d'Italie, 3 titres de champion du monde. Bientôt, on le surnomme le cannibale. Avec ses mollets d'acier, Merckx domine et ça énerve ses adversaires, la presse et parfois le public. La chute du cannibale commence en 1975. Dans une étape du Tour de France, à 150 mètres de l'arrivée, il reçoit un coup de poing de la part d'un spectateur. Après, il se sentira fragilisé pendant plusieurs jours.
Je ne peux plus respirer, j'avais vraiment mal. Dans le dos et dans le foie.
Blessé moralement.
Ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez, c'est la course, rien à faire.
Et Eddy Merckx n'a jamais eu d'idole. L'idole, c'était lui.
Merci Laure d'Autriche. Réalisation des Enfants d'Europe 1 avec François Demoulin. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les épisodes des Enfants d'Europe 1 sur notre application, notre site europe1.fr. Et d'ailleurs, eh bien, il fallait être attentif puisque c'est l'heure de jouer, Marion, et on a un beau cadeau à gagner cette semaine.
Oh oui, Europe 1 vous invite à prendre le large et à vivre une pause iodée inoubliable au Cure Marine de Trouville-sur-Mer en Normandie. Vous allez découvrir cet hôtel 5 étoiles idéalement situé face à la mer qui célèbre d'ailleurs ses 10 ans d'élégance et de bien-être. Europe 1 a réservé pour vous un programme exceptionnel, 3 nuits de rêve avec petit déjeuner, 3 soins de thalasso, un accès au somptueux spa de 2500 m² avec piscine chauffée à l'eau de mer, s'il vous plaît. Excellent pour la santé, ça. Tout est pensé vraiment pour votre détente absolue dans ce lieu magique que je vous invite à découvrir dès maintenant sur lescuremarines.com.
Ah, moi ça me tente bien en tout cas. 3 jours à Trouville dans une cure marine. Pour cela, eh bien, il faut avoir la réponse à notre question du jour. Combien de fois Eddy Merckx remporta-t-il le championnat du monde de cyclisme sur route? Est-ce réponse A 2 fois ou réponse B 3 fois?
Pour tenter votre chance, c'est très simple. Vous envoyez le mot thalasso au 7 39 21. 2 fois 75 centimes plus le coût du SMS. Et bien sûr, vous répondez à la question du jour. Et n'oubliez pas, chaque jour, un gagnant est également tiré au sort parmi les inscrits des Enfants d'Europe 1 et remporte son abonnement au JD News. Alors, on félicite Catherine ce matin qui habite Saint-Denis-les-Bourgs dans l'Ain et qui remporte son abonnement. Bravo Catherine.
Et oui, des gagnants tous les jours. Bravo Catherine, félicitations. D'ailleurs, vous retrouvez à la une du JD News cette semaine l'interview de Jérôme Fourquet de l'IFOP sur le réveil des catholiques.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko.
7h-9h, Europe 1 matin.
Écoutez, Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer.
Cet entrisme qui pourrait faire basculer toute la société française dans la charia.
Nous sommes la patrie de l'esprit critique, des lumières et des droits de l'homme. Donc nous sommes en première ligne et c'est pour ça que nous sommes attaqués.
Cet entrisme instrumentalise beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane en leur disant vous êtes des victimes.
Nous ne répondrons pas aux défis que nous lancent les frères musulmans par un nihilisme d'État.
Europe 1, la radio libre.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
À tout à l'heure, 7h-9h sur Europe 1.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagés. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Il est 6h15 sur Europe 1. Dans quelques minutes, c'est le Club Culture. Mais tout d'abord, place à votre invité, Thomas Schnell.
Bonjour, Jérémy Patrier-Lettus.
Bonjour.
Député Horizon du Calvados. Alors, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a proposé chez nos confrères du journal du dimanche l'interdiction de tous les écrans pour les enfants de moins de 3 ans. Ça veut dire, Jérémy Patrier-Lettus, qu'on commence à prendre conscience des dangers des écrans chez les plus jeunes ?
Oui, il était temps de se rendre compte que des effets délétères et désastreux des écrans sur nos jeunes, troubles de l'attention, anxiété, addiction, plus tard de la violence, du harcèlement. On prend la mesure, je crois, aujourd'hui que les écrans provoquent chez nos jeunes des troubles majeurs et qu'il faut maintenant des mesures radicales.
Vous proposez justement une proposition de loi avec une collègue socialiste d'interdire la vente des smartphones aux moins de 15 ans. J'aimerais vous demander, Jérémy Patrier-Lettus, comment vous pouvez vous assurer que les parents qui vont acheter les smartphones vont bien les interdire. Concrètement, comment vous pouvez le vérifier ?
Nous envoyons un signal fort pour dire aux parents, les smartphones pour les jeunes de moins de 15 ans, c'est interdit. On n'empêchera pas un parent d'acheter un smartphone pour son enfant. Mais dans ce cas, ça deviendra sa responsabilité. Ça sera la responsabilité des parents de mettre ces bombes à retardement. Moi, j'appelle cela des armes de destruction massive, du lien social, de l'estime de soi. Ça sera désormais la responsabilité des parents d'accepter que leurs enfants aient un smartphone. Mais nous, législateurs, nous, l'État, nous aurons dit clairement qu'en dessous de 15 ans, les smartphones doivent être interdits.
Est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire trop, comme on a pu le faire quand la télévision est apparue il y a longtemps, quand Internet est arrivé? À chaque fois qu'une nouvelle technologie vient un peu perturber nos habitudes, il y a une crainte qui s'installe. Mais est-ce que finalement, la population ne finit pas par s'éduquer à ces nouvelles technologies?
Aujourd'hui, vous savez, personne ne donnerait un verre d'alcool ou une arme à un jeune. Et il ne faut pas considérer qu'un smartphone, c'est anodin. À moins de 15 ans, il n'y a pas de bon usage d'un smartphone. Un enfant de 10 ans n'a pas besoin d'avoir un smartphone. Il a besoin d'un téléphone pour téléphoner à ses parents, pour être géolocalisé, si ses parents souhaitent savoir où il est, pour communiquer par SMS. Mais un enfant de 10 ans, il n'a pas besoin d'avoir accès aux réseaux sociaux. Et je pense qu'il est temps aussi qu'on se rende compte que ces objets ne sont pas anodins. Vous savez, j'étais dans une école et il y a un enfant qui me disait « Nous donner un smartphone à 10 ans, c'est comme nous mettre sur l'autoroute sans permis de conduire. » Je crois que l'image résume exactement ce qu'on est en train de faire en donnant à nos jeunes accès à des technologies auxquelles ils n'ont pas à avoir accès à un si jeune âge.
Jérémy Patrier-Lettus, évoquons la situation internationale. Il y a une guerre, ou presque, entre Israël et l'Iran, qui est déclenchée depuis 5 jours maintenant. Considérez-vous que le programme nucléaire iranien constitue une menace pour Israël, mais aussi pour l'Europe ?
Bien sûr, c'est ce qu'est en train de faire Israël en Iran, c'est pour sa sécurité. Mais il faut que vos auditeurs prennent conscience, que les Français prennent conscience que le combat qu'Israël mène contre l'Iran, c'est un combat pour l'Europe, c'est un combat pour la France. Un monde dans lequel l'Iran aurait l'arme atomique serait un monde dangereux, et un monde dangereux pour nos concitoyens. Et je crois que la guerre qui est en train de mener Israël contre l'Iran, elle est salutaire pour la France.
Et dans ce cas, est-ce que la France devrait soutenir militairement Israël ?
Je crois que la France doit explorer, ne doit pas se fermer la porte à des moyens de soutenir Israël si la sécurité d'Israël, la survie d'Israël était en jeu. La France est un ami d'Israël depuis des décennies, depuis sa création. Et si l'Iran menaçait la survie de cet État, je crois qu'il faudrait que la France, effectivement, explore les manières et les moyens d'apporter son soutien à Israël.
Jérémy Patrier-Lettus, vous souhaitez la chute du régime iranien ?
Oui, vous savez, moi j'ai, comme beaucoup des amis iraniens qui ont fui à la chute du Shah d'Iran et qui vivent depuis la chute du Shah dans un régime obscurantiste, islamiste, qui emprisonne, qui tue, qui torture. Un régime aujourd'hui que la population iranienne souhaite voir tomber. Mais comme l'a dit, comme l'ont dit plusieurs responsables, c'est aujourd'hui au peuple iranien de faire tomber le régime des mollahs. C'est pas à Israël, c'est le combat que le peuple iranien doit désormais mener pour faire tomber ce régime. C'est au peuple, vous savez, de faire tomber les régimes qui les soumet à l'oppression.
Oui, parce qu'on a des exemples, la Libye, l'Afghanistan, l'Irak, où ce sont des puissances occidentale. Là, en l'occurrence, c'est Israël, avec le soutien de ses alliés occidentaux qui cherchent à mettre un terme au régime iranien. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas forcément ce qu'on gagne avec la chute d'un régime dictatorial.
Je crois qu'il faut être précis. Aujourd'hui, Israël souhaite empêcher l'Iran de développer un programme atomique et de disposer de la bombe nucléaire. Se débarrasser du régime des Mollahs, c'est le combat aujourd'hui du peuple iranien et c'est le rôle de ce peuple, comme tous les peuples avant lui qui ont souhaité à un moment donné de leur histoire voir tomber le régime qui les oppressait. Aujourd'hui, c'est le combat du peuple iranien et j'espère qu'ils arriveront à faire tomber ce régime qui les oppresse. Encore une fois, un régime obscurantiste et islamiste.
Jérémy Patrié-Lettius, pour terminer, évoquons les prochaines campagnes, des municipales, mais surtout de la présidentielle française. Hier, les candidats du BAC ont planché sur les sujets de philosophie. J'en ai un pour vous. L'amitié et la loyauté sont-elles forcément solubles dans la soif de pouvoir ? Je vais m'expliquer. Est-ce que Édouard Philippe, candidat déclaré à la présidentielle, peut-il renier son bilan ? Lui qui a été le plus long Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui aujourd'hui peint en noir la France d'Emmanuel Macron, alors qu'il a été aux commandes du gouvernement de 2017 à 2020. Est-ce qu'il peut renier son bilan ?
Mais il ne le renie pas, il en assume, et il l'a dit d'ailleurs, à la fois des aspects positifs, et il y en a eu. Je pense que les Français savent qu'en 2017, il y avait une volonté de changement, il y avait une volonté de réforme. Et ce qu'il dit aujourd'hui, c'est qu'il ne retrouve pas le même élan depuis 2022. Et je crois que l'ensemble des Français font le constat que depuis la réélection du président de la République, on n'a pas retrouvé le même élan. Or, notre pays a besoin de réformes importantes. Donc je crois qu'Édouard Philippe, il est tout à fait loyal. Il assume qu'il a été Premier ministre du président, mais il assume aussi aujourd'hui de travailler sur un projet qui contiendra des réformes radicales, des ruptures radicales. On peut être loyal et libre, et je pense que d'autres responsables politiques l'ont prouvé tout au long de notre vie politique.
Parce que vous êtes député Horizon du Calvados, il y a déjà un candidat déclaré pour la mairie de Paris dans votre camp. Est-ce que Horizon va faire cavalier seul lors de ses prochaines campagnes ?
Et Horizon discute, mais Horizon a aussi des candidats. On a un excellent candidat à Paris, on a la personne de Pierre-Yves Bournazel. Et Horizon, c'est un parti politique, et un parti politique, je crois qu'en France, on a besoin de partis politiques forts. Et Horizon assume, Édouard Philippe assume d'avoir créé un parti politique. Et un parti politique, ça se présente aux élections, ça forme des candidats. Et le moment venu, ça exerce le pouvoir. Et donc Horizon s'engagera, comme il l'a fait législative, dans les prochaines élections qui concernent notre pays, à commencer par les municipales.
Merci Jérémy Patrié-Lettius.
Merci beaucoup.
Député Horizon du Calvados, merci d'être venu sur Europe 1 ce matin.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h, Thomas Chenel.
Dans un instant, toute l'actualité. Avec Christophe Lamarre, le journal permanent.
Israël a le droit de se défendre, l'Iran ne devra jamais disposer d'une arme nucléaire. Déclaration commune des dirigeants du G7 réunis en ce moment au Canada. Le communiqué accuse l'Iran d'être la principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région. Malgré les sirènes d'alerte à Tel Aviv et dans le centre d'Israël, la nuit a été plutôt calme selon le correspondant d'Europe 1 sur place. Mais le risque d'escalade demeure. Washington renforce sa présence militaire et appelle ses ressortissants à quitter immédiatement Téhéran. La Chine presse les siens de quitter Israël sans tarder. Signe des tensions dans la région, la société britannique de sécurité maritime Embraer rapporte un incident près du détroit d'Ormuz. Selon les images satellites fournies par la NASA, 3 navires seraient en feu dans les eaux de la mer d'Oman. Dans le reste de l'actualité, MaPrimeRénov' continuera de bénéficier aux travaux monogestes, c'est-à-dire les travaux d'isolation des combles ou encore le changement de chaudière. En revanche, le guichet restera fermé pour les rénovations d'ampleur.
Europe 1. Très bon réveil avec Europe 1. Il est 5h52. Vous écoutez Europe 1, bonjour. Et c'est avec Thomas Chenel.
Et c'est l'heure du Club Culture. Tout d'abord avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Ce matin, vous continuez la sélection des livres. Pour notre été, vous avez pris un Stephen King à nous proposer.
Si ça saigne chez Albin Michel, on fait difficilement plus kingien comme titre. Alors vous savez, Stephen King, c'est un graphomane et donc il n'y a pas un mais 4 romans dans le livre. On appelle ça des novellas, en fait. Plus long qu'une nouvelle, plus court qu'un roman, 110 pages en moyenne.
Et que sont-elles exactement ?
Ça commence par le téléphone de Monsieur Harrigan. Superbe, les droits ont déjà été achetés pour une adaptation. C'est l'histoire de Craig, un jeune garçon dans un village du Maine. À côté de chez lui s'est installé un vieux monsieur retraité de la finance internationale, très riche, dans une maison de folie. Monsieur Harrigan, c'est son nom, embauche Craig pour faire quelques petits travaux domestiques chez lui. Et surtout, il lui fait la lecture parce qu'il voit mal. Les deux se lient d'amitié. Un jour, Craig lui offre un téléphone portable. Au début, Monsieur Harrigan regarde le téléphone comme une poule à couteau. Mais Craig lui montre comment regarder les les cours de la bourse, etc. Et M. Harrigan devient accro. Finalement, le vieil homme meurt de sa belle mort, mais le jour de l'enterrement, Craig glisse le téléphone portable dans le cercueil. Quelque temps plus tard, Craig se fait embêter à l'école par une brute et le soir, un peu triste, il appelle son ami pour entendre la voix du répondeur. Mais ça sonne. Alors c'est bizarre. Il laisse un message comme ça, juste pour se livrer, pour raconter sa journée, et il reçoit une réponse, un texto.
N'en dites pas plus, Nicolas.
Certainement pas. Ensuite, c'est la vie de Chuck. Ça, c'est complètement dingue, mais je vous dis rien non plus parce qu'en plus, il vient d'être adapté au cinéma là cette semaine et il a l'air d'avoir un gros succès. Il y a aussi Si ça saigne, c'est la suite en fait de L'Outsider, un roman publié il y a quelques années, et Le Rat, l'histoire d'un écrivain en panne d'inspiration qui noue un pacte avec un rat, c'est-à-dire le diable peut-être.
Si ça saigne, donc, et c'est paru en édition de poche, c'est 4 romans au total.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h, c'est l'heure de l'actualité des jeux vidéo. Thomas Schnell.
Avec Caroline Speller. Caroline, le jeu vidéo de la semaine est Cyberpunk 2077, un des titres de la Switch 2. Et malgré le prix élevé de la console, elle s'est vendue à 3,5 millions d'unités en seulement 4 jours.
Un record historique pour une sortie de console. Avec cette nouvelle Switch, Nintendo veut séduire un public plus adulte sans sacrifier son esprit familial. Aux côtés de Street Fighter 6, Cyberpunk 2077 s'impose comme la vitrine technologique de la machine. Un jeu de rôle action où se mêlent dystopie, transhumanisme, monde ouvert et Keanu Reeves.
Tu sais comment on fait pour savoir ce qu'on vaut vraiment?
Putain !
C'est quand on est face à la mort qu'on la regarde en face.
Et c'est un jeu qui a déjà fait parler de lui.
Oh oui, sorti fin 2020, on l'attendait comme le Messi, mais sur console, c'est une catastrophe. Il y avait tellement de bugs que PlayStation l'avait retiré de sa boutique en ligne. Mais après 3 ans de mise à jour, de contenu additionnel, Cyberpunk 2077 est la pépite que tout le monde attendait.
Et sur Switch 2, on retrouve donc la version améliorée.
On incarne V, un mercenaire embarqué dans les pires magouilles de Night City, une mégalopole futuriste rongée par les corporations et les gangs. Imaginez un monde à la Blade Runner où tout se pirate, se trafique et où les implants cybernétiques sont la normalité. Dans ce chaos, on se retrouve injustement accusé d'un meurtre et avec une biopuce dans le crâne contenant les souvenirs d'un militaire rocker en guerre contre les corrompus, joué par Keanu Reeves.
Et apparemment, ce n'est pas la seule star au casting.
En effet, l'extension Phantom Liberty, à retrouver aussi sur la version Switch 2, propose une nouvelle intrigue entre thriller et espionnage avec notre personnage V et Idriss Elba, un ancien agent secret au cœur de manigances politiques. Alors oui, sur PC, PS5 ou Xbox, Cyberpunk 2077 est encore plus beau, mais pour les joueurs Switch 2 qui veulent troquer Mario pour une aventure de science-fiction crue, fascinante et inquiétante, foncez. Activez juste le contrôle parental. On est très loin de l'univers enfantin de Yoshi et Kirby.
Cyberpunk 2077. Merci Caroline, et la semaine prochaine.
Et très bon réveil avec Europe 1 ce mardi 17 juin. Il est 5h56.
C'est un plaisir de vous accompagner ce matin sur Europe 1 avec la météo de Marion dans un instant. Dans la prochaine demi-heure, nous avons rendez-vous avec Omblin Roche pour votre partition. Bonjour Omblin.
Bonjour Thomas, bonjour Marion.
De quoi allez-vous nous parler ce matin?
À l'âge de 21 ans, elle a secoué la planète rock, s'est produite dans le monde entier avec pour quelques dates Radiohead en ouverture. Peut-être faites-vous partie des 33 millions de personnes qui possèdent son CD depuis 1995. La partition d'Alanis Morissette et de son album Jagged Little Pill dans 20 minutes sur Europe 1.
Il y en a encore qui ont décédé. Après le journal, Stéphane Bern nous dévoile le thème de son émission Au cœur de l'histoire. Et puis rendez-vous à 6h15 pour l'édito de Laurent Tessier, Marion.
Oui, Laurent qui a vécu une expérience troublante hier avec la panne SFR. Plus de messages, plus d'appels pendant des heures. Il vous racontera.
Un peu compliqué, effectivement, mais... À 5h57, on jette un œil sur le temps. Marion, la chaleur se renforce.
Oui, surtout cet après-midi. Ce matin, c'est vrai qu'on va conserver une relative fraîcheur. Les températures sont comprises entre 9 à Aurillac et Mende et 22 déjà. À Nice, Marseille, Toulon, il fait 18 ce matin à Paris. Mais cet après-midi, les températures seront en hausse de 2 à 3 degrés. Vous aurez 36 degrés à Narbonne, 36 degrés, 34 à Nîmes et à Perpignan, 32 à Angoulême, Périgueux, Bordeaux, Niort et Gap, 31 à Valence, 31 à Pau, Albi et Paris, 30 degrés à Montluçon, 30 à Toulouse, Tours, Angers, 30 à Poitiers également, 29 à Dijon et à Lille, 28 à Amiens, Toulon et à Trappes, 27 à Verdun, 26 à Brest et c'est beaucoup plus frais du côté de Boulogne-sur-Mer avec 21 degrés. Alors côté ciel, la matinée, vous l'aurez compris, sera largement ensoleillée avec quelques petits bémols quand même. On a des bancs de nuages bas qui pourront retarder l'arrivée du soleil sur le nord de la Bretagne et le littoral normand. Et puis cet après-midi, on pourrait avoir quelques nuages au nord de la Loire, un peu plus nombreux de la Normandie à la Belgique. Rien qui ne va gâcher ce ressenti estival, rassurez-vous. En revanche, on a un gros bémol, c'est du côté des Alpes du Sud, où là on a un risque d'averse. Mais partout ailleurs, un soleil de plomb. Profitez-en, mais attention, hydratez-vous. Protégez-vous. Et puis les températures vont ne faire qu'augmenter tout au long de la semaine. Le pire est à venir, notamment pour le sud de la France.
Merci Marion Gagneau. Protégez-vous face à la chaleur. Vous êtes bien sur Europe 1. Très bon réveil à tous. Nous sommes le mardi 17 juin, il est 6h.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Thomas Chenel.
Votre journal de 6h à la une, cette information. Les dirigeants du G7 soutiennent Israël. Dans un communiqué commun, ils affirment le droit d'Israël à se défendre, pointent du doigt l'Iran, principale source d'instabilité et de terrorisme, et appellent à protéger les civils. Au cinquième jour des frappes, le président américain quitte précipitamment ce sommet du G7. Donald